Allô?
Vous écoutez le balado de l'Association des écrivaines et écrivains québécois pour la jeunesse. Je suis Amélie Bibeault, auteure pour la jeunesse et présidente de l'AEQJ pour l'année 2021-2022. À chaque épisode, je rencontre deux écrivaines et écrivains, membres de l'AEQJ, pour qu'ils me présentent un de leurs livres. Nous aborderons ensemble certains sujets en lien avec la littérature jeunesse. Je vous invite à les découvrir avec moi. Dans cet épisode, je rencontre Orbi, une autrice et illustratrice qui nous parlera de son tout nouveau bébé, La fin des poux, publié aux éditions 400 coups. J'ai profité de cette magnifique rencontre pour lui poser toutes sortes de questions sur ses méthodes de travail lorsqu'elle écrit, puis illustre ses albums jeunesse. Je vous dis qu'il y en a du travail là-dedans, mais elle le fait en riant. Mais tout d'abord, je m'entretiens avec Marie-Noël Marino au sujet de la recherche. Pédagogique ou ludique, les romans pour enfants? Le plaisir avant tout, bien sûr, mais pourquoi ne pas apprendre en même temps? Avec sa série « Chasseurs d'extraterrestres » publiée chez Victor et Anaïs, vous faites donc d'une pierre deux coups. Bonne écoute! Originaire de la Mauricie et résidente de Nicolet, au centre du Québec, Marie-Noël Marino est passionnée des technologies et éternelle apprenante. Elle a étudié en hôtellerie, en récréologie, en administration, en éducation et a été tantôt sur le marché du travail, tantôt maman à la maison. Elle concilie maintenant sa passion pour l'écriture avec l'éducation à domicile de ses deux garçons et son statut de travailleur autonome dans les domaines de la communication, l'éducation et l'édition. Depuis 2018, elle a auto-publié trois livres sur l'éducation à domicile et plusieurs livres jeunesse, dont les séries « La clique alpha » et « Chasseurs d'extraterrestres » chez les éditions Victor et Anaïs. Elle est également la vice-présidente de l'AEQJ pour l'année 2021-2022.
Alors, bonjour, Marie-Noël Marino, ça va bien?
Oui, allô, Amélie, ça va bien, toi?
Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, on est là pour parler de ton livre « Chasseurs d'extraterrestres » qui est publié aux éditions Victor et Anaïs pour les 8 à 9 ans. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus?
Oui, bien, « Chasseurs d'extraterrestres », c'est une série de romans. Donc, j'ai pas de la misère à dire un âge de début et de fin à un livre parce que, bien, franchement, tous les lecteurs sont différents. Donc, oui. Je dirais, oui, à partir du deuxième, troisième cycle du primaire, j'ai eu beaucoup de retours d'adultes qui l'ont lu.
Ben oui, pourquoi pas?
qui ont aimé ça aussi. Mais oui, je dirais que c'est à peu près pour ce groupe d'âge-là, c'est en fait, c'est un roman d'à peu près 8000 mots, 100 pages, ça se lit bien. Pour les jeunes, c'est pas un roman illustré, là, c'est vraiment, il y a une image sur la couverture, puis le reste, le lecteur peut s'imaginer ce qui se passe dans sa tête. Dans ce livre-là, ben, dans cette série-là, en fait, on suit deux personnages, Samira et Milo. C'est deux amis, je spécifie pas leur âge, mais tu sais, ils ont à peu près là, 8, 9, 10 ans. Mm-hmm. Samira, c'est une jeune fille hypersensible, neuroatypique, qui a une grande passion pour tout ce qui touche l'espace et la possibilité de vie extraterrestre. Elle, ouais. Son univers, son monde, ça tourne autour de ça.
Ouais, c'est pour et, ça que je l'avais acheté pour mon gars, je me souviens. Il est comme ça.
Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on pourrait appeler son intérêt mm-hmm. restreint. Je préfère dire sa grande ben, ouais. passion. Puis son meilleur ami, Milo, lui, c'est un sportif. Il aime ça être avec ses amis. Mais sa meilleure amie, c'est Samira. Okay. Qu'ils connaissent depuis toujours. Ensemble, ils aiment faire des activités. C'est souvent d'aller se promener dans un petit boisé qu'ils ont dans leur voisinage. Mm-hmm. Puis, ils rencontrent des choses qui leur donnent envie d'en savoir plus. Ils rencontrent des événements ou des objets dans ce bois-là. Puis, à chaque fois, ben, Samira pense que c'est les extraterrestres qui sont enfin parmi nous. Okay. Puis Milo a toujours une toute autre théorie.
Oui, j'imagine.
Dans le livre, en gros, les deux sont assez certains que leur théorie, c'est la bonne. Puis, ben, écoute, on voit à la fin si c'est un extraterrestre, si c'est autre chose. Dans le tome 1, en gros, il arrive devant un objet, ils ne savent pas trop c'est quoi. Milo, tout de suite, se dit... C'est un coffre-fort d'une banque. Il y a des voleurs qui ont fait un vol de banque. Ils ont échappé leur coffre-fort ici, puis ils vont sûrement revenir le chercher. Alors que pour Samira, c'est clair que c'est un vaisseau spatial.
Oui, oui. Ouais.
Donc, on les suit dans le premier tome là-dedans. Et dans le deuxième tome, il voit une grosse trace dans le même bois. Puis là, Samira se dit, ça y est, c'est une trace extraterrestre. Puis maintenant, elle est certaine que les extraterrestres sont géants, parce que c'est une grosse trace. Alors que Milo, lui, il se dit plus que c'est genre un Yeti ou quelque chose comme ça. Là. Lui, il se dit...
Okay. C'est... Il est quand même capable d'aller dans le fantastique, dans les
Ah
les...
oui!
C'est ça.
Oui.
Dans... Pas terre à terre, là, à 100%.
Non, pas tout le temps. C'est juste que pour lui, c'est jamais un extraterrestre.
Oh, ouais, c'est ça.
Alors que pour Samira, peu importe ce qu'elle va voir, c'est un extraterrestre.
Oh, oui.
Donc, en gros, c'est ce qui se passe dans le premier puis dans le deuxième tome. C'est un peu toujours la même formule. Il y a un élément déclencheur, puis ils ont chacun leur théorie, puis ils partent enquêter là-dessus.
OK, fait que c'est vraiment des petits livres d'enquête. Puis, si je comprends bien, chaque tome a un début, un milieu, puis une fin. Là. C'est pas un à suivre nécessairement.
Non, exactement.
Okay.
Quelqu'un pourrait commencer par le tome 2, puis, tu sais, même s'il y a des rappels en lien avec le tome 1, il y a des explications qui viennent avec ça. Là. Chaque livre a son début, son milieu, une fin. L'enquête se termine dans le livre.
OK. Wow, super. Puis qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire, de créer des personnages aussi différents l'un de l'autre? Puis,
ben moi, dans mon quotidien, il y a de la neurodiversité.
Okay.
Donc, c'est quelque chose que je connais bien. Puis, je trouvais, ça c'est pour le personnage de Samira, je trouvais que ça pouvait être intéressant de suivre un personnage dans ses pensées, dans sa façon de vivre des événements, qui a une hypersensibilité, que ce pas nécessairement émotionnelle, l'hypersensibilité, c'est très sensible au toucher, à son environnement, à la lumière, au son. Donc, tu sais, elle sent le vent contre elle, puis elle est capable de décrire ça. Donc, on est beaucoup dans sa tête, puis je trouvais que pour le lecteur qui est peut-être moins sensibilisé à ça, ça pouvait être intéressant pour connaître une réalité qui est un peu plus loin de sa propre réalité. Puis, je voulais un personnage qui était un peu son opposé pour que ça soit le fun. Puis, je voulais qu'on suive deux personnages principaux. Là. Donc, je suis juste allée à l'opposé. Puis, c'est pas parce que deux personnes sont opposées qu'elles peuvent pas être meilleures amies. Donc, c'est un peu comme ça là, que j'ai pensé à mes personnages. L'idée première, c'était vraiment d'avoir un personnage comme Samira, puis tout le reste. Puis je voulais quelque chose en lien avec les extraterrestres, parce que moi, j'aime ça, je trouve ça le fun. Okay.
C'est ça un peu toi, Samira? Je t'écoute, là.
On a des points communs. Okay. On a des points communs. Elle a des points communs avec moi, elle a des points communs avec mes enfants aussi. Donc, c'est pour ça que pour moi, j'avais une facilité à créer un personnage comme ça, parce que je suis capable de mettre en mots comment elle peut vivre les situations. Puis c'est ça. Puis la partie extraterrestre, ben, c'était une petite passion à moi. Là. C'est genre grande fan de X-Files et tout.
Okay.
Donc, je trouvais ça le fun de mettre là-dedans tout en restant dans la réalité. Là. C'est ça. Ça reste...
Là, il y a deux, dans le fond, il y a deux narrateurs. Les deux narrations sont au jeu ou...
Non, on...
OK.
Milo est très important, mais toutes ses interactions à lui sont d'un point de vue de Samira. C'est Samira qu'on suit tout le temps. Milo est toujours là, mais c'est elle qui vit les choses. On est juste dans sa tête à elle, dans sa perception à elle de ce qui se passe.
OK. Puis là, tu dis que tu es une grande fan d'extraterrestres et tout ça. Là, j'imagine que le volet recherche a dû vraiment être très fascinant pour...
Oui. Pour le tome... Moi, je m'étais dit, je veux apporter un élément que je ne connais pas du tout dans chaque tome. Parce que dans la vie, moi, je suis quelqu'un qui a du fun à faire de la recherche.
Okay.
Moi, j'aime ça faire de la recherche pour mon travail, pour peu importe, pour mes livres. Puis là, dans celui-là, je m'étais vraiment mis ça comme défi. Là, pour le premier tome, je peux pas vraiment dire c'était quoi ma recherche parce que je vais dévoiler le punch.
Okay.
Donc, je veux pas dire, mais...
Fait que là, tu vas nous dire c'était quoi finalement l'espèce d'objet qu'ils ont trouvé, si tu nous dis c'est... C'est quoi ta recherche?
Ouais, à quel domaine?
C'est lui.
Ouais. Okay. Donc, je peux pas dire, mais il y a des éléments que j'ai dû pour... Tu sais, j'ai mis des indices tout le long du livre pour la finale, mais c'était des indices qui n'étaient pas évidents du tout, puis j'ai eu une recherche à faire. Pour le tome 2, ça, je peux dire, j'ai fait la recherche sur la cryptozoologie, sur l'univers des cryptides, en fait, parce que je nomme plusieurs personnage du type Yeti, Bigfoot. Puis là, je voulais savoir c'est quoi la... Moi, je connaissais pas ça, là. Je voulais voir c'était quoi la différence entre toutes ces créatures-là qui sont dans les légendes de différentes régions. Donc, il a fallu que je fasse la recherche pour savoir. Tu sais, je savais pas qu'il y avait un genre de pseudo-science qui étudiait tout ça. Donc, j'ai fait de la recherche pour mettre des vrais éléments, puis qu'il y ait des explications qui sont basées sur quelque chose là, qui existe, puis que je connaissais pas du tout. Donc, c'est un peu comme ça. Puis ça, c'est ça. Je révèle pas le punch en disant que j'ai fait ma recherche là-dessus. Mais c'est ça, je voulais... Il y a eu des explications. Là. Ils en parlent ensemble, Samira et Milo. Puis Milo, lui, il connaît juste... Ben là, il y a le Yeti, il y a... T'sais, admettons, l'abominable homme des neiges, des affaires comme ça. Puis là, elle arrive avec les explications plus scientifiques de qu'est-ce que c'est, puis pourquoi c'est pas la même chose. Donc, les enfants vont apprendre des choses au passage pendant leur lecture. Mais j'avoue que moi, j'ai vraiment eu du fun là, à faire de la recherche sur ce domaine-là. Là. Moi, j'avais les connaissances de Milo là-dessus. J'avais pas les connaissances de Samira, mais je suis allée les chercher parce que je trouvais que ça pouvait être intéressant. Là,
j'ai pas mal les connaissances de Milo, moi.
Ouais,
aussi.
C'est ça. Le Yeti, c'est lui, puis il ressemble pas mal à tous les autres. Puis...
Ouais, tu sais, moi, le Yeti, l'abominable d'homme des neiges, c'est pas mal la même
chose. Non, mais c'est ça. Mais là, Samira, elle aime ça, apprendre des choses aux autres. Là, donc, elle apprend des choses en lien avec ça, même si c'est pas sa théorie à elle. Elle a les connaissances parce qu'elle a déjà lu sur le sujet. Donc, c'est ça. C'est un petit volet que je trouve le fun d'apporter dans les livres. Je me dis que pour... Ah oui. Là, je dis les enfants, mais tu sais, mettons les lecteurs, là, peu importe leur âge, là, ben, des fois, ça peut faire des informations qui sont intéressantes. Ça peut, je pense, des fois, allumer une petite étincelle pour une passion, pour un nouveau sujet, pour un jeune. Je pense que les jeunes... Ben, tu sais, tu disais ton garçon, les extra... Mm-hmm. Tu sais, ben c'est ça. Puis moi aussi, je le vois avec mes enfants. Des fois, ils partent sur des passions, puis ils vont faire de la recherche. Puis ces passions-là, ça vient de quelque part. Des fois, ça va être quelque chose qui croise dans un livre, qui croise dans une émission. J'aime ça, mettre des petits éléments comme ça. Puis je sais jamais qu'est-ce que ça peut déclencher chez le lecteur qui va dire « Hey, j'aimerais ça en apprendre plus là-dessus. » Puis se lancer dans une recherche puis développer une nouvelle passion. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant des fois.
Oui, puis en même temps, ça m'amène à un autre sujet là, qui touche de près. Là, l'école à la maison, mon roman Wendigo a été utilisé par une maman comme ça, puis elle a vraiment utilisé le roman pour parler des Abénakis, puis des légendes, tout ça, amérindiennes, autochtones. Et puis... Ça me fait penser, tu sais, dans le fond, quand on fait l'école à la maison aussi, là, tout ce qui est pédagogique autour du livre, toutes les activités qu'on peut faire, il doit en avoir plusieurs là, qu'on pourrait faire à partir des informations que tu as recueillies. Là.
Vraiment, moi, comme la maman dont tu parles,
ouais.
Les livres, la littérature, c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup avec mes enfants parce qu'ils aiment ça.
Oui.
J'ai réalisé là, que faut que j'utilise des livres qu'ils aiment, mais si je pars d'un auteur qu'ils aiment, d'un livre qu'ils ont lu tous les deux, ils ont à peu près le même âge, donc ils sont dans les mêmes genres de lecture souvent, là, on peut faire n'importe quoi, là, on peut apprendre n'importe quoi. Là, si on part d'un auteur qu'ils adorent, d'un livre sur lequel ils ont vraiment accroché, bien, ça peut être un élément dans le livre qui va nous amener complètement ailleurs pour voir d'autres éléments qui sont dans le programme. Bien entendu, le livre, mais quand on lit, il y a tout l'aspect compréhension de texte, réutilisation aussi de ce qu'on a vu pour partir avec l'imagination puis réinventer des choses en lien avec ça. Donc, oui, c'est vraiment là... Il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire en éducation avec des livres. Les livres qui... Puis en plus, je pense que... Mais là, je parle de... Là, mettons, mes enfants, eux, aiment ça. Mais même un enfant là, qui n'a pas encore la piqûre de la lecture, là, puis je dis encore parce que je pense que si tu trouves le bon livre pour l'enfant, tout le monde peut avoir la piqûre de la lecture. Je veux dire, c'est juste... Quand ça ne marche pas, là, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé le genre ou le bon personnage ou la
bonne... J'ai exactement la même ligne de pensée à ce sujet-là, oui.
Mais je pense que c'est une bonne façon, justement, de venir montrer à quel point les livres, ça peut être le fun pour un jeune qui n'a pas justement encore cette piqûre de la lecture-là. Si tu lui lis un, parce que ça peut, c'est pas toujours obligé d'être le jeune qui fait la lecture lui-même. On peut lire un passage pour le jeune, puis on lui demande d'imaginer des choses en lien avec ça. Puis ça fait juste des expériences super positives avec la littérature jeunesse qui vient faire son petit bout de chemin chez un enfant qui va se transformer en futur grand lecteur plus tard, peut-être. C'est sûr que des fois, il y a des obstacles. Là. Je veux dire, un enfant peut avoir une difficulté à la lecture. Ça, c'est autre chose. Mais justement, on peut l'aider. Il y a des livres maintenant audio que tu peux utiliser pour utiliser la littérature jeunesse. Là. Si l'enfant, il y a quelque chose, il y a une difficulté en lien avec la lecture elle-même, mais c'est pas parce qu'un enfant a une difficulté en lecture qu'il n'aimera pas les livres puis qu'il n'aimera pas la littérature. Puis c'est ça, il y a tellement de choses à faire avec ça. Là.
Oh oui, mais j'ai une nièce qui est dyslexique puis qui aujourd'hui dévore les romans. Là. Elle a 13 ans, là, puis tu sais, ça a été difficile, là, ça a été long. Puis aujourd'hui, mon Dieu, elle lit tout, là, elle lit plus que moi. C'est quelque chose, c'est vraiment mignon.
Wow!
Ouais, c'est le fun, vraiment. Vraiment. Puis quand tu écris, est-ce que tu... parce que t'es maman, tu fais l'école à la maison. Est-ce que tu penses plus au côté ludique ou plus au côté pédagogique de tes romans ou tu veux vraiment faire un mélange de tout ça? Ou...
Ben là, ben franchement, moi, c'est beaucoup le ludique. C'est juste que je trouve que peu importe que j'y pense ou non, il va avoir un volet éducatif, pédagogique. Tu sais, il y a une façon de réutiliser ça en éducation, peu importe là.
Ben oui.
Fait que moi, je le pense pas comme ça. Puis moi, c'est vraiment le fun là. Si je pars avec un projet, une nouvelle série, habituellement, tu sais, j'ai une ambiance, tu sais, j'ai une idée générale de ce que je veux que la personne qui va faire la lecture vive comme émotion, comme expérience pendant la lecture. Puis c'est plus ça mon fil conducteur que de dire, je pense que je sais pas, je pourrais faire quelque chose dans tous les chapitres qui fait qu'ensuite à l'école ça pourrait être ça je le pense pas vraiment, mais des fois quand je fais ma relecture, quand tout je vais ajouter des éléments puis des trucs comme ça là, mais pas pendant que j'écris, pas pendant là, mon premier jet.
Non, c'est ça arrive souvent par après, puis même des choses, moi il y a des choses que j'ai même pas pensé puis après ça j'ai su, tu sais, hey, on va utiliser ça en classe pour telle raison. OK, c'est
super.
Pas voulu, mais c'était tout voulu. c'est, moi aussi, c'est très, très ludique, mes histoires. Puis, c'est, on découvre par après que finalement, il y avait un aspect pédagogique peut-être plus fort que
qu'on pensait. Mais parce que quand on fait une histoire, on veut que ça se tienne. Fait que c'est sûr qu'on va aller chercher des îles. Tu sais, on va aller faire. J'imagine que tu as fait une petite recherche pour. Mais c'est ça.
Mais oui.
Pour ta série Agents de Wendigo. Ben, tu sais, c'est pas comme toi, tu voulais qu'il y ait, tu voulais le plaisir, tu voulais que ton histoire se tienne, mais à cause de l'histoire que tu as fait, il y a quand même un gros volet, tu sais, qui peut être réutilisé en classe dans différents domaines d'apprentissage, mais tu sais, c'était pas ton but.
Non, c'est ça.
Je pense que ça fait souvent ça.
Ben, je pense que oui, je pense qu'on, à quelque part, tu sais, le volet recherche, je connais pas un auteur qui fait pas de recherche, là.
Non.
Je pense que ça fait partie du métier, là. À moins d'écrire une autofic encore, tu sais, je pense qu'il y a toujours des choses à chercher, à creuser, à valider. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, il y a quelque chose de pédagogique qui va ressortir en arrière de ça, là. Particulièrement en littérature jeunesse.
Oui, oui, c'est ça.
Particulièrement, oui. Même si c'est pas toujours l'objectif final. Hey, ben c'est déjà l'heure, ça passe vite.
Oui, ça passe vraiment vite. Moi aussi, j'ai vu l'heure. Je me dis,
ben oui, c'est déjà l'heure. Fait qu'on va juste répéter les infos. Dans le fond, c'est Chasseurs d'extraterrestres chez Victor et Anaïs. Il y a environ 100 pages chacun. Fait que c'est écrit gros, hein?
Oui, semble, oui, là, c'est écrit très gros.
C'est ça, il n'y a pas d'illustration. Là. C'est pour ça, moi et Noé, on l'a acheté, mais on va le lire plus tard parce que lui, il a encore besoin des dessins. Là. Mais on va le lire sûrement ensemble aussi. Nous autres, on lit une page, là, ça compense les dessins. Quand maman
c'est une bonne idée.
Oh, oui, puis j'ai bien hâte de le lire. Fait que c'est ça, c'est classé 8 à 9 ans, mais dans le fond, moi, je comprends que les adultes peuvent être très intéressés aussi, justement, là, pour avoir plein d'infos sur des recherches que Marie-Noëlle a faites?
Ben oui, c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde qui a encore de l'intérêt pour la littérature jeunesse, en fait. Là. Ouais. Moi-même, j'en lis beaucoup des livres jeunesse, puis j'ai du fun avec ça.
Ah oui, moi aussi, je ne lis que ça. Mais petite anecdote pour finir, je suis rentrée comme libraire il y a plusieurs années. Je suis rentrée comme libraire et je me suis rendue compte que je ne lisais que du jeunesse. Mais je ne savais pas. T'sais, je lisais les Harry Potter, les Artemis Fowl, dans ce temps-là, les chroniques du bout du monde, etc. Puis c'était que du jeunesse. Fait que, spontanément, j'ai dit, je m'en vais dans le jeunesse. Puis quand j'ai commencé à en écrire, ça a été ça. Ou même encore aujourd'hui, je lis 80% de mes romans, c'est du jeunesse.
OK.
Puis c'est pas pour Noé tout le temps. Là. C'est pas
non, non, c'est pour toi, alors.
C'est pour moi. J'aime ça. Ouais, j'adore ça. Fait que espérons qu'on donne le goût à des adultes de découvrir.
Mais oui, il y a tellement des belles choses qui s'écrit là au Québec, partout aussi. Mm-hmm. Mais mettons, j'aime bien ça mettre de l'avant le Québec. Ah, ouais. Là, à chaque année, il y a des chefs-d'œuvre qui sortent en littérature jeunesse. Là. Ça vaut la peine, même quand on est adulte, oui, de garder un œil là-dessus pour faire des belles découvertes.
Oui, absolument. Tout à fait d'accord. Mais merci beaucoup, Marie-Noëlle.
Merci, Amélie. Ça fait plaisir.
Rencontrons maintenant Orbi, autrice et illustratrice, qui nous parlera de son tout nouveau bébé, La fin des poux. Attention, ça va vous gratter. Orbi illustre et écrit des livres pour enfants et elle adore ça. Surtout lorsqu'elle rit à voix haute en travaillant. Gaspésienne d'adoption depuis qu'elle est adulte, elle rigole tout de même encore aux blagues de Pitt. C'est qu'elle a gardé son cœur d'enfant, ce qui est plutôt pratique dans son métier. Elle a 7 poules, un coq, 3 canards, 2 chats, beaucoup trop de crayons et 2 enfants. Ces derniers sont très fiers d'être une source inépuisable d'inspiration pour leur mère, même s'ils risquent fort probablement de lui en vouloir pour cela à l'adolescence. En attendant, Orbi rencontre petits et grands pour tenter de leur donner envie de dessiner et d'écrire à leur tour.
Bonjour Orbi, ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Très bien. Alors, on est ici pour parler du livre « La fin des poux » qui a l'air vraiment très drôle. J'ai bien hâte que tu m'en parles. Est-ce que tu peux me faire une petite description, s'il te plaît?
Oui, ben c'est l'histoire d'une famille de poux qui est dans la tête de la petite Annette. Puis, il commence à être un petit peu coincé là, sur sa tête parce que ça se passe à une époque où les enfants ne pouvaient plus jouer près les uns des autres. Fait qu'il n'y a aucun enfant, dans le fond, à proximité. Oh. De Annette. Fait qu'on va suivre un peu la famille de poux qui essaye de trouver des trucs et astuces pour réussir à migrer vers une autre tête qui sont malheureusement un petit peu trop loin. Là.
OK. Donc, on se place un peu en contexte pandémie, si je comprends bien, ou c'est pas nommé?
Oui, tout à fait.
OK. C'est inspiré de...
Tout à fait. Dans le fond, l'idée est venue après le grand confinement, là, quand le premier ministre a annoncé qu'il y aurait une rentrée à l'automne. Mais que les enfants auraient... faudrait qu'ils gardent quand même la distance de 2 mètres. Moi, la première réaction que j'ai eue, c'est « Yes, on n'aura pas de poux cette année! » Parce qu'on en avait eu l'année d'avant, là. Puis, en tout cas, j'ai pas vraiment trouvé cette expérience très agréable. Alors, je me suis dit ça, puis tout de suite après, j'ai comme vu les poux dans ma tête qui étaient comme fâchés, puis pas contents, puis qui faisaient comme la grève, là. « Mais qui a pensé aux poux? Et nous, les poux, dans tout ça? » Fait que je trouvais ça super drôle, là. J'avais comme en tête de faire une caricature, dans le fond. C'est plus une image, là, tu sais, qui compte la blague. Puis plus j'y pensais, plus je me disais, ah, oh, ben, tu sais, je pourrais peut-être y rajouter un début, puis une fin, puis tirer ça sur 32 pages. Fait que j'ai commencé à réfléchir un peu à, tu sais, qu'est-ce que ça pourrait être comme contexte, qu'est-ce qui pourrait se passer un peu du côté des poux, puis c'est ça, là, le processus d'écriture a commencé de même, puis écoute, j'ai tellement été inspirée que j'ai fait 72 pages, finalement.
Ah oui, c'est... Ouais. je comprends, parce que moi, ce qui me vient en tête avec cette histoire-là, c'est aussi de parler, tu sais, de... de tout le contexte là, en ce moment, le réchauffement climatique. En fait, c'est comme une allégorie un peu de ce qui se passe sur la planète, où je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est ce que je voyais là, avec les poux, ils se multiplient, puis ils prennent toute la place, puis là, à un moment donné, c'est, je sais pas.
Je trouve ça tellement intéressant d'entendre les analyses des autres, mais j'avais pas vu ça de même pas tout.
Oh, mais vrai? C'est vrai,
mais
vraiment,
t'as raison, c'est vrai. C'est vrai, c'est
Toutes ces, problématiques-là de ressources naturelles, tu sais.
Oui, c'est ça. Puis on essaie d'aller sur Mars pour...
Ben oui, pour se trouver, tu sais, c'est un peu comme dans une galaxie près de chez vous, là, tu sais. On cherche une nouvelle planète. Exactement. Donc, si je comprends, c'était pas dans cette direction-là du tout. Là, que va l'histoire, OK.
Non, mais ça fait souvent ça quand j'écris mes livres... Les gens lisant, ils voient autre chose, puis finalement, c'est vrai, là, tu sais, ça marche au bout, mais c'était pas du tout dans mon intention originale. Là. Moi, dans le fond, c'était juste de rire avec des poux qui essayent de se rendre sur une autre tête, mais qui manquent toujours leur coup parce que l'enfant est toujours trop loin.
Ah oh, oui. OK, puis là, c'est de voir les stratégies, puis tout ça. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup d'humour, là.
Oui. Moi, j'aime ça. Quand j'écris puis quand j'illustre, j'aime ça rire, là. Puis j'aime ça imaginer les gens qui vont rire des blagues. Puis c'est quasiment dans mes... une des raisons pourquoi je fais des livres, là, c'est pour faire rire, là.
OK. Moi, c'est ça, dans la description, tu dis que tu ris à voix haute en travaillant, ça doit être amusant.
Oui, ben pas tout le temps, là, mais quand je suis à la période... C'est ça, quand je suis à la période d'écriture, puis que là, je me laisse vraiment aller, puis... que c'est ça, que je laisse l'histoire un peu me porter, puis j'écris, puis je suis un peu où l'histoire me mène, ben souvent, oui, ça, je vais rire à voix haute, là, parce que c'est ça, je vais rire de mes blagues.
Ben oui. Puis toi, Orbi, tu illustres et tu écris tes propres histoires. Je me demandais, qu'est-ce qui vient en premier, l'œuf ou la poule? Non, le dessin ou le texte?
Ben, c'est vraiment une bonne question. Ce qui vient en premier, c'est toujours l'idée. Je vais avoir un peu comme l'idée générale. Des fois, c'est une image, mais des fois, c'est plus des phrases. Okay. Puis ça va rester un petit temps quand même dans ma tête, mais j'essaie de noter. Là. Fait que, quand je prends mes notes pour mes histoires, ça, c'est pas mal moitié-moitié, je dirais. Là. C'est assez hybride. Là, je vais noter la première phrase, puis je vais faire le premier croquis qui me vient en tête, mais en tout petit. Là, c'est vraiment une petite vignette. Là. Juste noter l'idée en dessin, puis noter l'idée en texte. Puis
une forme de sketch, en fait? C'est comme un sketch.
Ouais, okay. Mais même avant le sketch, là, tu sais, c'est vraiment juste quelques petites lignes juste pour sortir ce que j'ai en tête. Puis je vais y aller comme ça en suivant un peu où l'histoire s'en va. Puis c'est vraiment comme des petites cases un peu de bande dessinée. Puis je vais écrire un peu la narration avec. Puis c'est comme ça que je fais mon histoire. Après ça, quand je vais retravailler le texte, ben là, ça arrive que je vais prendre le texte à part puis tout ça. Puis là, je vais essayer de voir la structure. Puis c'est de mettre un peu d'ordre dans tout ça, là, parce que quand j'écris puis quand je dessine, quand j'ai une idée, au début, là, c'est vraiment chaotique. Là. Il y a plein de petits bouts un peu partout dans mes carnets. Puis, fait que des fois, je vais plus travailler le texte tout seul, puis après ça, l'illustration tout seul, mais ça se fait quand même assez en même temps. Là.
OK. Fait que dans le fond, c'est ça, il n'y a pas nécessairement j'écris mon texte, je fais les illustrations en premier, ou je fais les illustrations, ensuite j'écris le texte à partir de l'illustration. C'est vraiment tout ça cool.
Oui.
Ça coule là, du même souffle, si on veut.
Oui, puis ça contraste vraiment quand j'illustre des livres pour d'autres auteurs. Oui. Parce que là, tu sais, je pars vraiment d'un texte fini. Puis là, je commence avec mon illustration. Tu sais, je fais mon illustration, puis souvent, ça va être dans un format de 32 pages. Là. Mais quand j'écris, ça se fait vraiment en même temps, un peu en symbiose. Là. Puis quand j'écris, j'essaie de moins en moins de rester pris dans un 32 pages. Là. J'aime ça vraiment me laisser porter par l'histoire puis voir jusqu'où elle peut aller. Là.
Ouais, c'est ça, c'est moins...
Il faut négocier avec les éditeurs, là, mais... faut pas trop faire de pages non plus, là, mais quand même, là, j'aime ça pouvoir comme donner à l'histoire l'espace qu'elle a besoin pour vivre.
Intéressant. Puis là, on parle de nombre de pages. On parlait aussi de couleurs parce que la couleur, ça coûte plus cher. Donc, 72 pages comme ça, est-ce qu'il est tout en couleur?
Oui, ben moi, je fais des livres illustrés, là, fait que c'est toujours en couleur. Là. J'ai jamais fait de trucs...
Des fois, il peut y avoir des illustrations. Hein, ou il y a des bandes dessinées. OK. Fait que c'est tout en couleur.
Fait que ça a jamais été des discussions que j'ai eues avec les éditeurs. Là. Ça a toujours été le choix. Là. Ouais.
OK. Parfait. Puis quand comme cette idée-là, dans le fond, est-ce que tu l'as présentée à des éditeurs avant de le commencer ou tu l'as fait puis ensuite tu le présentes terminé?
Je me souviens plus exactement comment j'ai fonctionné, mais vu qu'avec les années, je me suis rendu compte que je n'étais pas super bien au stress, aux échéanciers, puis mon agenda est trop rempli. Fait que moi, comment je fonctionne avec les textes que j'écris, c'est je vais aller en résidence de création, puis une fois que le projet est vraiment parti puis mis en branle, là, je le propose à l'éditeur pour pas que je sois obligée, mettons, de le finir trop. Mm-hmm. Je veux pas comme être obligée de bousculer mon horaire, parce que j'ai un petit peu de misère à dire non là, quand on me demande de finir plus tôt que ce que je suis capable. Fait que, tu sais, c'est... Ouais. Mais je pense que j'en avais quand même parlé à mon éditeur là, aux 400 coups. Là, c'est avec eux que j'ai fait mon premier livre. Mm-hmm. Puis la plupart de mes livres que j'ai écrits aussi, puis on a vraiment une belle relation. Puis, c'est dès que j'ai une idée, j'y en parle. Là, puis il sait que quand je pars en résidence de création, il faut qu'il soit ultra disponible parce que là, je vais comme y envoyer les trucs au fur et à mesure. Puis il faut qu'il... Okay. Tu sais, qu'il m'en revienne rapidement. Là, parce que souvent, dans un 2 semaines, je vais essayer de vraiment avancer le livre le plus possible. Là, fait que...
C'est une page à la fois. Dans le fond, tu lui présentes une page à la fois
pour faire à mesure que
ça avance?
C'est quand l'écriture puis les croquis vont être terminés. Là, comme un peu comme la structure, les esquisses du livre, là, quand c'est lisable, dans le fond, là, lisible plutôt, en tout cas. Quand ça peut être lu, là, puis compris, là, quand on comprend un peu le début, la fin, puis comment ça se déroule, là, tu sais. C'est pas des illustrations poussées, là. C'est vraiment juste donner une idée de comment c'est construit, mais c'est à ce stade-là souvent que je le présente. Puis des fois, ben, je vais en parler avant, juste de mon idée générale, puis de ce que j'ai en tête, là. Fait que comme ça me donne une idée aussi si mon éditeur, c'est le genre de sujet qui l'intéresse ou non, là.
Mm-hmm. Puis là, l'époux, ça intéressait, c'est certain, là, tout le monde connaît les poux. Tout le monde a eu des problèmes avec les poux. On les déteste.
Justement, ça me gratte un peu.
Ouais, ben c'est ça que j'allais dire. Je me disais, ça va être une entrevue où la tête va me piquer, ça.
Ah oui, non, c'est impossible de ne pas se gratter la tête une fois en lisant le livre.
Non, non, c'est ça. Puis là, dans le fond, c'est ça, on se trouve en contexte avec d'humour, des poux... qui se cherche des moyens d'accéder à un nouveau territoire et tout ça. Puis là, c'est parce que je ne veux pas vendre de punch. Fait que, c'est ça, j'ai comme plein de questions, mais je ne veux pas non plus...
Ben, je vais te le dire si c'est...
vendre de punch. Mais tu sais, est-ce qu'il y a une petite morale dans l'histoire ou c'est simplement humoristique? T'sais, on va y aller comme ça avec la question plus...
Moi, je ne pense jamais à des morales quand j'écris. Okay. On dirait que je fais juste écouter l'histoire, puis je vais voir ce qui est drôle, puis essayer de trouver comme de quoi de puncher, mettons, pour la fin, ou tu sais, jouer avec le rythme, puis je pense jamais à la morale, là, malheureusement. Là. Il y en a qui en trouvent en lisant le livre, là. Faudrait que je l'analyse de ce côté-là, mais c'est pas... peut-être la morale, c'est de persévérer.
Ouais, c'est ça!
Persévérer puis créatif, mais...
Ben oui.
Ouais.
Puis est-ce qu'il y a des personnages principaux dans les poux? Dans le fond,
le personnage principal, la colonie de... Le personnage principal est très nombreux.
C'est ça. C'est les poux en tant que tels.
Il n'y a pas comme un poux, le personnage principal. C'est vraiment la famille. Là.
OK. Combien de temps ça prend faire une illustration? Je pense que c'est quelque chose que les gens peuvent...
Une illustration ou...
Oui, une illustration, une page, là.
Mon Dieu, c'est parce qu'il y a tellement d'étapes.
Ça dépend, OK.
Une page, je ne sais pas, parce que dans le fond, un livre, c'est vraiment un tout, là, tu sais, ça ne se fait pas tant par... C'est difficile de diviser ça en pages parce que, dans le fond, au départ, tu sais, il y a une recherche plus sur les personnages. Fait que, tu sais, on va passer quelques jours à essayer de trouver comment qu'on va les dessiner, à quoi qu'ils vont ressembler, tu sais, leur trouver leur personnalité à eux, puis le style aussi, tu sais. Plus détaillé ou moins, ou vers lequel on va aller. Après ça, ben les croquis, c'est assez variable, ça dépend de la complexité de l'histoire puis de comment ça vient, mais ça peut prendre entre, je dirais peut-être un 2 semaines sur les croquis, 2-3 semaines.
OK.
Après ça, une fois que les croquis sont terminés, ben là, il y a une recherche de couleurs, savoir quel médium je vais utiliser, je vais-tu faire les dessins au crayon de plomb, au feutre à pointe fine, avec une plume puis de l'encre? Est-ce qu'il va avoir des traits? Est-ce que ça va être au crayon de bois? C'est un peu tout ça que j'essaie. Okay. Je fais plein de tests. Des fois, je vais prendre une page que je vais essayer de plusieurs techniques différentes ou juste m'amuser à redessiner le personnage en différentes positions avec différentes techniques. Okay. Là, je vais voir comme quelle technique qui sort le mieux l'histoire puis qui... qui va aussi être la plus facile à faire pour moi, là, parce que je vais toujours aller vers ce qui est plus amusant, puis facile, puis qui mm-hmm. va sortir plus naturellement. Fait que là, ben, je vais m'amuser avec l'aquarelle, j'essaie avec les pastels, les crayons de couleur, j'essaie de voir, tu sais, ça va être quoi la technique que je vais utiliser. Puis quand j'ai trouvé, ben là, je commence, tu sais. Okay. Souvent, je vais commencer par les pages plus faciles, un peu pour me faire la main, là.
Ouais.
Pour trouver ma palette de couleurs comme il faut, puis que tout se place. Puis plus ça va, plus je vais aller vers les pages complexes, puis là, plus je vais comme maiser un peu, tu sais, les matériaux que tu lises, les personnages, puis...
J'imagine que tu peux aussi retravailler, tu peux retravailler aussi les illustrations que tu dis plus simples que tu as faites au début, tu sais, une fois que tu as vraiment trouvé...
Ouais, ça arrive des fois que ça ne fait plus ce que j'ai fait au début, là, fait que je l'ai refait. Tu sais, en tout, ça prend peut-être 4 à 6 mois, là.
OK. Ouais, ça ressemble pas mal à l'écriture d'un roman, là. Ouais. Ouais, c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant, l'illustration. J'ai un garçon qui essaie, on essaie de faire une BD en ce moment, il y a 8 ans, tu sais, puis on ne sait pas par où commencer tout le temps, tu sais, c'est difficile d'intégrer le texte à l'image et tout ça, là, c'est vraiment chapeau.
On parle des croquis en premier.
Oui, ben c'est et, ça que j'essaie de lui expliquer.
Ouais. Les trucs, là, quand on travaille en bande dessinée, c'est de déjà sortir son synopsis, c'est un peu comme l'idée générale du livre, mm-hmm. là. Puis, tu sais, écrire, ça commence comment, qu'est-ce qui se passe, comment ça finit. Puis après ça, on peut diviser comme plus en étapes, tu sais, comme quand on fait un... Tu sais, quand on travaille, mettons, les péripéties ou, tu sais, la structure narrative d'un livre. Puis après ça, c'est de voir comme qu'est-ce qu'on fait à chaque page ou à chaque case. Puis après ça, des fois, ça aide d'écrire le texte en premier parce qu'on voit l'espace qui reste pour, tu sais, les personnages.
Ouais.
C'est un peu de construire comme ça, là. C'est un peu comme construire une maison, on commence avec un plan.
Ouais, ouais, ouais.
On commence à placer la structure, puis là, au début, on fait le rough, puis plus ça va, puis on commence à faire la finition, puis à mettre ça beau, là. Fait que il faut voir ça un peu de même, là. Mais si ton enfant, il a 8 ans, tu peux aussi juste le laisser aller.
Ah, mais c'est parce que non, il veut que maman aide.
C'est OK. Oui, ben, oui, juste lui tracer des cases. Trace-lui des cases sur une feuille, puis ça va faire toute la différence, là. Moi, quand je donne des ateliers dans les écoles, là, des fois, quand je leur amène juste des pages avec des cases, là, tout d'un coup, ils sont capables de partir.
Ça débloque.
Ouais, mais si c'est eux, il faut qu'ils fassent les cases, on dirait que c'est... difficile à démarrer, là, mais de partir avec des cases déjà faites, là, ça aide vraiment. Puis, on peut varier, soit faire plus comme un gaufrier, là, comme une gaufre tout égale, ou on peut mettre une grande case au début, puis varier des grosseurs, puis eux autres, ils vont s'amuser à remplir ça.
Ah oh, ils sont très créatifs. Créatifs, les enfants. Puis, je voulais savoir aussi, enfin, une dernière petite question, là, rapide. Tu ne travailles jamais à l'ordinateur? Tu travailles uniquement...
Je travaille beaucoup à l'ordinateur, mais... Okay. Physiquement, je trouve ça difficile, là, pour les deux. Je fais beaucoup... pour la tête aussi, là, ça donne des migraines. Je trouve travailler beaucoup avec les écrans. Puis, avant de faire des livres, je travaillais beaucoup... avec une tablette graphique, là, mes illustrations étaient toutes faites à l'ordinateur. Puis, c'est ça, quand j'ai commencé à avoir des limites là, par rapport à mon corps, là, à ma santé physique, j'ai décidé d'aller plus vraiment vers les médiums traditionnels. Puis, c'est vraiment en faisant mon premier livre, là, en illustrant mon premier livre, La petite truie, le vélo, la lune. Lui, je l'ai fait à la peinture, puis j'ai eu tellement du plaisir à le faire, puis ça m'a tellement fait du bien, puis... de me redonner confiance aussi, d'être capable de travailler sur papier, puis avec les médiums plus traditionnels, puis d'essayer, puis de jouer dans la couleur. Ça a vraiment été comme une révélation pour moi, là, puis pratiquement tous mes livres là, sont toutes faites de manière traditionnelle. Puis c'est ça que j'explique aux enfants. Là, dans le fond, quand je travaille à l'ordinateur, j'ai l'impression de travailler, justement, mais quand je mets les couleurs sur papier, avec l'aquarelle, l'écran de couleur, je me rends pas compte que je travaille. À part, il y a des pages, des fois, que c'est plus difficile, là, tu sais, que les couleurs sont plus difficiles à sortir ou ça sort moins bien, là, tu sais, là, ça coule moins, mais, tu sais, la plupart des pages, là, c'est vraiment juste zen puis le fun à mettre en couleur, là, tandis que sur l'ordinateur, c'est comme, ah, c'est long, puis on dirait que c'est plus haut. Ouais. Mais il y a toujours une étape pareille. Une fois que toutes les pages sont finies, il faut que je les numérise, que je les scanne. Puis quand ils arrivent dans l'ordinateur, ils ne sont pas belles comme sur le papier. Il faut nettoyer tout, enlever toutes les petites poussières. Puis réajuster les couleurs pour les noirs soient noirs, que les couleurs sortent bien, que le blanc redevienne blanc. Puis moi, j'écris tout mon texte à la main aussi. Fait que ça, c'est vraiment long, là. Fait que tu sais, tout scanner le texte, le replacer, enlever justement toutes les petites poussières là, de numérisation. Puis y a un gros travail là, de post-production sur l'ordinateur. Là. Okay. Mais déjà, de faire tout à la main, ça fait que ça équilibre un peu le tout.
Mm-hmm. Et puis enfin, je me souviens que je voulais qu'on parle aussi du prix Cécile Gagnon que tu as remporté, là, c'est en 2019, ça fait déjà 2 ans.
Oui.
Ouais,
justement, Facebook me le rappelait cette semaine.
Ah, c'est vrai, oui, c'est ça, c'était à peu près ce temps-ci. C'était autour du Salon du Livre de Montréal. C'était au Salon du Livre de Montréal, le dernier Salon du Livre de Montréal qu'il y a eu, là. Avant la pandémie.
Vrai, hein, le dernier, pour vrai.
Ouais. Je me demandais quel effet ça avait eu sur toi de remporter ce prix-là. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que...
Ben, premièrement, ça m'a vraiment surpris, là, parce que, tu sais, Lilou Laloute, là, j'ai eu vraiment du fun à le dessiner, puis ça, tu sais, l'histoire est un peu niaiseuse, là. C'est drôle, je m'attendais pas à être nominée ou à remporter des prix avec ce livre-là, puis finalement, tu sais, il a été nominé aussi au prix Harry Black, là. Fait que, tu sais, il a quand même eu une super visibilité, puis, fait que c'était comme la première reconnaissance, dans le fond, que j'avais pour ce livre-là. Puis, parce que ça a changé, tu sais, ça m'a comme confirmé que ce que je faisais comme auteur, tu sais, ça plaisait, puis que ça plaisait même auprès de mes pères, là, tu sais, pas juste les enfants, mais que les autres auteurs, les libraires, tu sais, que les éditeurs, ils aimaient ça. Fait que ça m'a vraiment encouragée à continuer à écrire, là.
Ouais, parce qu'on le disait avant l'entrevue. Effet que ça l'a fait. Il y a très peu d'auteurs, illustrateurs au Québec. Il y en a d'autres, là, mais il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, normalement, c'est un illustrateur avec un auteur.
Oui.
Toi, tu fais les deux.
Ben, je pense que les illustrateurs, on a beaucoup de misère à se faire confiance par rapport aux histoires. Puis moi, quand j'étais toute petite, j'aimais tout le temps ça, raconter des histoires. Puis même adulte, là, tu sais, j'ai tout le temps plein d'anecdotes, pas de punch, là, tu sais, des petites tranches de vie là, que j'aime ça raconter. Puis ça vient long, mes affaires. Puis c'est un peu comme ça que je fais dans mes livres. Mais ben, tu sais, j'ai tout le temps aimé ça, raconter des histoires. Puis tu sais, je faisais des petites BD aussi quand j'étais ado, puis quand j'étais jeune adulte. Puis, mais on dirait que j'avais comme... J'étais pas super bonne en français à l'école. Fait que penser que j'étais auteur, j'avais pas vu ça de même. Puis c'est quand j'ai eu l'idée de mon livre Sa corde à linge que là, je me suis dit, crème, moi aussi, je suis capable d'en avoir. J'en ai des idées d'histoire, c'est juste que je suis tellement tout le temps occupée à travailler sur autre chose ou illustrer les idées des autres que j'ai pas de place pour mes idées à moi. Mm-hmm. Fait que c'est ça, c'est juste de se faire confiance puis de l'essayer puis d'observer beaucoup aussi, là, tu sais, le fait d'avoir des enfants puis de lire un livre jeunesse à tous les soirs, à quelque part, il y a un travail qui se fait dans le cerveau. Oui. Là, je le lis pour mes enfants, mais il y a un petit côté qui analyse quand même. Là, tu sais, je vois qu'est-ce que j'aime dans la structure narrative, je vois qu'est-ce que j'aime moins. Puis je me rends compte aussi que que ça peut marcher avec ma façon de moi raconter des histoires. Là, tu sais, ça n'a pas besoin d'être super compliqué, puis avec plein de beaux mots, synonymes, puis tout. Là, tu sais, tout le monde a sa voix, dans le fond, puis son style. Puis c'est juste comme, c'est ça, de se faire confiance, puis d'assumer notre voix à nous.
Là. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Orbi. C'était vraiment très, très, très intéressant. Alors, je vous invite à aller vous procurer La fin des poux, édité chez les 400 coups. C'est dès 5 ans. Moi, je suis pas mal sûre que ça peut plaire jusqu'à... En tout cas, moi, ça m'intéresse. J'ai l'impression que
les publics ne croient pas ça, là.
Non, c'est ça. Même, tu sais, on dit c'est parce qu'il y a 72 pages, peut-être que c'est dès 5 ans, mais je pense que même des tout-petits là, pourraient vraiment apprécier, là, cette histoire.
Oui, tu sais, ils ne comprendront peut-être pas toute l'histoire, mais ils vont avoir du fun juste à regarder les images. Là,
puis... Absolument, c'est ça, oui. Tout à fait. Un gros merci, Orbi. À la prochaine.
Merci. Bye-bye.
Bye-bye.
Merci d'avoir été là. J'espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain, nous rencontrons Lucille, Bisson et Colombe Dufour. À bientôt!
Bye-bye!